Ésaïe 54, verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. » Ça, c'est le premier impératif. « Ne retiens pas. » Deuxième impératif. « Allonge tes cordages. » Troisième impératif. « Et affermis tes pieux. » Ça, on le verra dimanche prochain. Amen. La dernière fois, nous avons commencé à parler de ce troisième impératif. « Allonge tes cordages. » Pourquoi ? Parce que force est de constater que nous sommes souvent, dans bien des domaines, nous sommes trop courts. Allonge, long, longueur, c'est la même racine. Allonge, va plus loin, allonge tes cordages. Et nous avions vu ce point fondamental, nous sommes souvent trop courts dans l'amour. Et j'ai mis volontairement un A majuscule. Et c'est pour ça que nous avons toujours mis en parallèle Ésaïe 54 et Éphésiens 3, 17 à 19. Paul dit « Je prie afin que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour et qu'avec tous les saints, vous puissiez comprendre, on a parlé du verbe comprendre, quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu et que vous puissiez connaître, on a parlé du verbe connaître, quel est l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. C'est la seule façon, en étant soi-même bouleversé et rempli par la révélation de l'amour de Dieu, en recevant cette révélation, qu'on peut être transformé. C'est la clé, c'est la solution pour pouvoir ensuite allonger nos cordages, aller plus loin dans le pardon, aller plus loin dans la vision, aller plus loin dans l'amour, par sa grâce, évidemment. Allonge tes cordages. On va parler ensemble ce matin de trois points concrets dans lesquels malheureusement nous pouvons être trop courts et limiter l'action de Dieu. Dans quel domaine pouvons-nous être trop courts ? Être trop courts dans la repentance. Si il est vrai que nous pouvons, nous l'avons vu malheureusement, être trop courts dans le pardon, nous pouvons aussi être trop courts dans la demande de pardon. La repentance, c'est un processus. C'est pas un simple changement d'idée. C'est pas seulement une nouvelle façon de penser. La repentance, c'est pas d'adhérer à une nouvelle façon de raisonner ou de penser qui serait un peu plus divine que humaine. La repentance, c'est un processus. Et quand on ne va pas, frères et sœurs, dans nos besoins de repentance sur différents points, quand on ne va pas au bout du processus du repentance, quand on a été trop court, quand on n'a pas allongé, on limite l'action de Dieu, le Saint-Esprit. Aller jusqu'au bout du processus, la repentance, c'est un processus qui comprend quatre étapes. La première étape, c'est toujours de prendre conscience que nous avons offensé Dieu par un péché, une attitude, un comportement, une parole, je ne sais, il y a différentes façons. Une prise de conscience. Il y a aussi ensuite, une fois que j'ai cette prise de conscience, cette demande de pardon à Dieu. Une fois que j'ai demandé pardon à Dieu, je m'excuse, non, ce n'est pas terminé. Mon processus de repentance n'est pas fini. Il y a quelqu'un que je dois aller voir, à moins que ça ne me concernait que moi, mais dans les problèmes relationnels, il y a quelqu'un que je dois aller voir, quelqu'un que je dois pardonner et quelqu'un à qui je dois demander pardon pour mes propres torts. Même s'il a 90% de torts et moi 10%, je vais au bout de mon processus de repentance. Le fils prodigue, il a eu cette démarche concrète. Il s'est levé, prise de conscience, il s'est levé, il a fait une démarche, il a été vers son père. Il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel. Relation verticale qui a besoin d'être rétablie. Et contre toi, relation horizontale qui a besoin d'être rétablie. La croix me parle d'une restauration verticale, mais aussi horizontale entre nous. Le fils prodigue a eu cette démarche concrète. Il a été au bout de son processus de repentance. Et la quatrième étape, c'est de changer. C'est de ne pas se remettre toujours dans la même bouillasse, excusez-moi l'expression. Heureusement que le fils prodigue, une fois que le père l'a restauré, il n'est pas retourné à ses pourceaux, à ses cochons, à ses carouges. Sinon, ça sert à rien. après la prise de conscience, après la confession à Dieu, après avoir réglé ce que je dois régler sur le plan horizontal, il y a ensuite cette métanoïa, ce changement, changement de mentalité, changement d'attitude, changement de façon de penser, changement de comportement. Et là, je suis dans un processus de repentance complet. Je vous l'avais dit, ce qui m'a plu lorsque, il y a 15 jours, j'ai entendu le témoignage de Christine pour son baptême. C'est pas moi qui lui ai demandé de le faire, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Elle a dit, j'ai écrit à qui je devais écrire pour dire que telle offense était pardonnée. Et dans ma lettre, j'ai aussi dit, je demande pardon pour bam, 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 bam. Après l'autre, il te pardonne pas, c'est son problème devant Dieu. Mais si je vais pas au bout du processus de repentance, il y a forcément des limites à l'action de Dieu dans ma vie. Et bien souvent, on est là, on dit, mais Seigneur, pourquoi alors que tu es grand, tu fais pas plus? Seigneur, et la Bible dit, oui, mais le problème, c'est que le repentir se dérobe à mes regards. Appelle-le, appelle-la, tu prends ton téléphone, tu prends ta plume, tu prends ton stylo, tu fais ce que tu veux, mais demande, écris, va voir, téléphone, je ne sais, mais va jusqu'au bout, allonge le processus de repentance, va jusqu'au bout du processus de repentance. Et j'ai mis ce dernier exemple qui est toujours un exemple magnifique de cœur, de ce désir de restaurer, de rétablir toutes les relations horizontales. Heureusement que Zachée, bien qu'il était court sur pattes, Zachée était petit, vous le savez, Luc chapitre 19, le fils prodigue c'est Luc 15, Zachée c'est Luc 19. Zachée, bien qu'il était petit, n'a pas été trop court en repentance. Il s'est pas contenté d'accueillir Jésus dans sa vie. Une fois que Jésus est entré dans sa maison, la première chose qu'il a faite, alors que la relation verticale était restaurée, il a dit à Jésus, « Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple, j'irai jusqu'au bout. » Parce que j'ai ce désir dans mon cœur que toute relation horizontale soit aplanie, soit assainie, soit réglée. Évidemment, autant que ça dépende de moi. Je peux pas forcer l'autre à me pardonner, on est bien d'accord. Ne jamais être trop court en ce qui concerne la repentance, parce que c'est souvent sur des sujets fondamentaux comme celui-ci qu'on bloque déjà l'Esprit de Dieu. Un autre point dans lequel, malheureusement, nous pouvons être trop courts, il va falloir allonger. Et là, je ne vais pas parler de longueur de prière, je ne vais pas parler de durée. La prière, avant toute chose, vous le savez, avant d'être une quantité, c'est avant tout une attitude de cœur, c'est une qualité. La prière, c'est pas de la durée, la prière, c'est pas la multiplication de vaines paroles, c'est pas des récitations évangéliques, on est bien d'accord. Ce sont pas des phrases toutes faites, c'est pas de la prière informative, même s'il faut faire connaître nos besoins à Dieu. Mais là, je vais parler de persévérance dans la prière. Persévérer. Aller jusqu'au bout. Mais le bout, il est où? Ben, j'en sais rien. Tu le sauras quand tu seras exaucé. C'est dans une semaine? C'est dans un mois? C'est dans un an? C'est dans 10 ans, selon le domaine? Je ne sais pas. Le principe de la persévérance dans la prière, alors là, on a Luc chapitre 11, Luc chapitre 18, on a tellement d'enseignements sur la persévérance dans la prière. Le principe, c'est jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu réponde, jusqu'à ce que Dieu réponde. Aller jusqu'à l'exaucement, aller jusqu'à la réponse de Dieu. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais je crains quand même que notre conception de la prière, de façon générale, soit beaucoup plus souvent un monologue qu'un dialogue. Et quand j'ai dit au Seigneur ce que j'avais à lui dire, quand je lui ai bien dit ce qu'il avait à faire, heureusement que je suis là quand même pour le conseiller. Je suis conscient qu'il n'a pas besoin de conseiller. Mais je le fais quand même. Je lui dis quand même ce qu'il a à faire. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait mon monologue, très souvent, frères et sœurs, nous partons. Nous passons bien vite à autre chose. une fois que le Seigneur a écouté ce que son serviteur avait à dire, écoute Seigneur, ton serviteur parle. Je vais quand même te faire une prière par la foi au nom de Jésus. Forcément, il faut que ça tombe. Nous partons, nous passons à autre chose, alors que la prière est un dialogue dans lequel le jeune Samuel disait « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ça t'embête si je fais ma liste de courses en attendant, Seigneur, ou qu'est-ce qu'on fait là ? C'est super gênant hein, quand on a balancé tout ce qu'on avait à balancer, puis après... Vous savez que quand on demande à Dieu, il répond. Alors il y a des moments, je sais, la réponse, vous avez besoin de partir au travail. Vous n'allez pas dire à votre patron, « Ah, je suis en retard aujourd'hui, j'attendais que Dieu me parle. » On est bien d'accord. Parfois le Seigneur vous parlera plus tard, d'une façon, d'une autre. Il vous mettra une conviction, il y aura une prophétie, il y aura une prédication, il y aura votre propre lecture biblique, il y aura... Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais dans toutes les façons dont Dieu parle, il y en a une, et j'ai l'impression que celle-là, frères et sœurs, pardon, on la manque souvent, c'est de savoir se taire et de savoir écouter. Que Dieu mette une conviction au fond de mon cœur. Et dans ce domaine, il y a tellement de choses que l'Esprit voudrait me communiquer, me dire dans mon temps de communion avec lui. Je suis convaincu qu'on manque, frères et sœurs, on manque des réponses. On loupe des bénédictions, on passe à côté de certains exaucements parce que nous partons trop vite, parce que nous passons trop vite à autre chose. Et j'ai bien peur que malheureusement, on ne sache plus prendre du temps avec Dieu. Il faut que tout aille vite. Les disciples dans la chambre haute, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Nous, on sait à quoi ça ressemble, le baptême dans le Saint-Esprit. Les langues de feu, on connaît tout ça. Eux, ils savaient pas. Le Seigneur leur dit, allez dans la chambre haute, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que je vous ai promis. Le Saint-Esprit va venir. On sait pas à quoi il ressemble, on l'a jamais vu, on sait pas ce qui va se passer. Ils y sont allés. Puis dans la chambre haute, ben, il s'est passé une journée. T'es sûr que c'est moi qui ai pas compris ou il avait vraiment, oui, je me souviens. Il avait dit, attendez. Bon, ben, on va demander à Vincent de nous faire chanter un autre chant en attendant que... Vincent prépare des chants pour demain parce qu'on sait jamais, on va bien qu'on s'occupe. Puis le troisième jour, on demandera à Eric et le quatrième jour, on demandera à la chorale parce que ça va être long, ce histoire. Et puis il y a eu le jour 2. Et il y a eu le jour 3. Et ça a été jusqu'à 10 jours comme ça. Vous savez que par notre persévérance, on démontre notre foi. On démontre si on y croit ou on n'y croit pas. Comment est-ce que je peux savoir si j'y crois vraiment ? Ben simplement à l'investissement que je vais donner dans cette affaire. Je me dis, heureusement, c'est pas arrivé, ils étaient 120 dans la chambre haute. Je me dis, et si les 120 ou une partie ? Ils étaient partis le 8e jour. Bon, il y a forcément quelque chose qu'on n'a pas compris. Puis en même temps, c'est peut-être pas si grave, parce que moi je pense quand même qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour aller au ciel. On a Jésus. Ben c'est bien pour aller au ciel. Alors pourquoi on est encore là à attendre ? On attend quoi là ? Il y en a peut-être un qui a eu le bon sens de dire « On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour aller au ciel, mais on a besoin du Saint-Esprit parce qu'on reste sur la terre. » Alors on va attendre le 9e jour. Et s'ils étaient partis au bout de 9, ils sont restés jusqu'à ce que. Et c'est pas un texte biblique, je vous ai partagé mon témoignage, je sais de quoi je parle. Je laisse la femme cananéenne, la veuve, Jacob, je laisse tous ces exemples, ça nous emmènerait trop loin. Mais je crois, frères et sœurs, que c'est important. c'est pas des rituels évangéliques, ce sont pas des récitations informatives. Je le redis, j'insiste, c'est vraiment un principe de persévérance, de ténacité, de ne pas lâcher l'affaire, de ténacité dans le temps, jusqu'à l'exaucement, jusqu'à la réponse, jusqu'à ce que Dieu me dise, me parle, me réponde. Il faut que je prenne le temps, que je sache me taire, que je sache me poser, que je sache méditer, que je sache écouter et que je sache développer cette communion avec lui et que mon oreille spirituelle se développe. Et dans ce sens-là, je dis, allonge, va plus loin, parce que la bénédiction, elle est juste derrière la limite que tu refuses de repousser. La bénédiction de Dieu, elle est derrière la limite que tu vas repousser. Et quand tu auras repoussé cette limite, hop, oh bah, bah oui, tiens, quelle surprise. La bénédiction, elle est juste derrière cette limite que tu vas repousser. Va plus loin. J'apprécie beaucoup cette phrase, c'est bien plus qu'une phrase, cette attitude de cœur de Jacob, qui dit à Dieu au Guet-Jabok, quand il lutte avec lui, il lui dit « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Et il a obtenu la véritable bénédiction. Il a lutté avec Dieu, il a allongé. Pendant 20 ans, Jacob, il a rien allongé du tout. Jacob, en 20 ans, il a été court sur tout. Et on a vu le résultat de sa vie. Merci beaucoup, ça donne pas envie. Mais à partir du jour où il a allongé, il a dit, je te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Non, le bras de Dieu n'est pas trop court. C'est le mien qui est trop court. Allonge. Et la jonction va se faire. Amen. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Un dernier point, et celui-là, on va le lire ensemble, parce que c'est un récit un peu moins connu, et j'aimerais vraiment que vous puissiez l'avoir sous les yeux. On va parler de ces moments où nous sommes trop courts dans la foi, trop courts dans la détermination. Et on va prendre l'exemple du roi Joas. Alors, il y a eu deux Joas, un en Juda et un en Israël. Et là, on va prendre l'exemple du roi Joas, roi d'Israël, et vous trouvez son récit dans le deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois, au chapitre 13. Deuxième livre des rois, au chapitre 13. Verset 14, tout le monde a trouvé ? J'attends un petit peu. Deux rois, chapitre 13. Verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Je vous explique après ce que ça veut dire. Élisée lui dit « prends un arc et des flèches !» Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main !» Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée lui dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre ton ennemi, contre les Syriens. Tu battras donc les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Ça, c'est le plan, c'est la volonté de Dieu, qu'il se débarrasse de ses ennemis jusqu'à ce que ce soit terminé, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, pour que ce plan se réalise, il y a la part de Joas. Élisée lui dit encore, prends les flèches, il les prit. Élisée lui dit encore, frappe contre terre. Et il frappa trois fois, et il s'arrêta. Et il a frappé trois fois et il s'est arrêté. Alors, Élisée s'est irrité, verset 19, Élisée, l'homme de Dieu, s'irrita contre lui. Il dit, il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu tes ennemis jusqu'à leur extermination, mais maintenant tu ne les battras que trois fois. Et si vous allez tout seul plus tard au verset 25, vous allez vous apercevoir que Joas n'a remporté que trois victoires. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, ce texte? Joas est l'exemple de l'homme qui est trop court dans la foi, trop court dans la détermination, trop court dans la persévérance. Joas, à ce moment-là, avant d'aller voir Élisée, pour le contexte rapidement, Joas est très loin de ce que Dieu veut pour lui. Il est entouré d'ennemis, il est toujours oppressé, il vit dans des dimensions étriquées, il est encerclé, toujours oppressé, toujours vaincu. Bien évidemment, vous relisez le contexte, vous vous apercevez qu'il est le seul responsable de sa misère, mais voilà son contexte et voilà ses dimensions étriquées. Il en prend conscience. Et alors qu'il a cette prise de conscience en lui, au verset 14, il va voir le prophète Élisée avec un cœur vrai, un cœur repentant. Et c'est là qu'il dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Ça signifie très simple, c'est dans le langage imagé, métaphorique de l'époque, puisque le prophète, il n'y avait pas le canon à cette époque-là, puisque le prophète, il parle et il agit de la part de Dieu, c'est une façon pour lui de reconnaître « mon père », c'est une façon de reconnaître qu'il a besoin de Dieu, le Dieu d'Élisée, il a besoin du Dieu d'Élisée et de sa parole. Et c'est une attitude de cœur qu'il faut discerner ici pour retrouver le Dieu d'Élisée et puis sa parole. Et puis « char d'Israël et sa cavalerie », eh bien c'est simplement une façon pour lui aussi de reconnaître son besoin que Dieu agisse par sa puissance dans sa vie, dans ses circonstances. Alors Élisée, voyant que son cœur est vrai, son cœur est repentant, voyant sa démarche de retour, il va lui dire de tirer en direction de son ennemi. Vers l'Orient, il ouvre la fenêtre, et puis les mains, c'est magnifique cette image, les mains d'Élisée se posent alors que Joas est en train de bander son arc vers l'Orient, vers la Syrie, vers son ennemi. Les mains d'Élisée se posent sur les mains de Joas. Et c'est une façon pour symboliser les mains sur ses mains. C'est une image pour symboliser l'action de Dieu. La main, c'est l'action, ok? C'est pour symboliser l'action de Dieu en sa faveur. Dieu veut et peut agir en sa faveur. C'est absolument pas un problème. Dieu veut lui donner, lui offrir une nouvelle fenêtre d'avenir, une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Dieu veut l'amener à conquérir de nouveaux territoires. Dieu veut lui donner un nouvel espace de vie, un nouvel espace de liberté. Dieu veut l'emmener dans une nouvelle victoire, mais pas n'importe quelle victoire. Une victoire totale et définitive sur son ennemi. Une victoire totale et définitive sur son ennemi. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Pas pour que je me bagarre toujours contre les mêmes problèmes. Pour que j'aie des victoires totales, définitives, ils sont exterminés, on n'en parle plus. Verset 17. Jusqu'à leur extermination. Alors pour ça, il va falloir que Joas s'investisse. Il va falloir qu'il y croit, il va falloir qu'il soit déterminé, il va falloir, excusez-moi, mais qu'il se secoue, il va falloir qu'il se bouge un peu plus, il va falloir qu'il aille jusqu'au bout. C'est pour ça qu'Élisée lui dit, pour que ça aille jusqu'à la délivrance totale, à la victoire définitive, à cette extermination de ton ennemi, c'est pour ça qu'il lui dit au verset 18, frappe contre terre. Et là, c'est un symbole, il tire des flèches, il frappe contre terre. Le verbe frapper ici, naka, le verbe frapper désigne encore frapper mortellement, tuer, exterminer, détruire. Et contre terre, le mot eretz ne désigne pas seulement le sol sur lequel vous marchez, ça désigne aussi le pays, eretz, le sol, le pays, la contrée, le territoire, voilà ce que ça désigne. Et c'était une façon symbolique, lorsqu'il devait tirer encore, c'était une façon de prendre position, de prendre possession du territoire, de prendre autorité et de dire, oui, voilà, je vais aller jusqu'au bout, je vais exterminer cet ennemi par la grâce de Dieu, je vais avoir une victoire totale et définitive, je vais enfin débarrasser de ces problèmes, de ces ennemis qui me font vivre dans des dimensions extrêmement étriquées. Ce geste symbolique, c'était pour une victoire totale et définitive de son royaume sur ses ennemis. Voilà ce que ça signifie, c'est simple. Et Élisée, qui parle de la part de Dieu, le Seigneur ne veut pas lui faire gagner 2 ou 3 rounds, il veut lui faire gagner le match. Ok ? Il veut pas lui faire gagner simplement 2 ou 3 batailles, il veut lui faire gagner la guerre. Il y a une grande différence entre gagner une bataille et gagner la guerre. Il y a une grande différence entre gagner un round et gagner le match, entre gagner un set ou gagner un match entier. Mais le problème de Joas, c'est qu'il manque de foi. Il n'y croit pas vraiment, il n'est pas déterminé et il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas cette niaque en lui, il n'y a pas cette hardiesse, il n'y a pas cette résolution. Il aurait dû vider son carquois et puis balancer tout ce qu'il avait. Et au nom du Seigneur, c'était la prise de position, l'autorité sur tout le territoire. C'est ça que ça veut dire. Puis Joas, en faisant comme ça, « Oh, mais c'est bien, ça devrait suffire. On va pas être extrémiste avec Dieu non plus. Faut pas exagérer non plus. Pas en faire trop, frère, avec le Seigneur. Faut pas en faire trop. On va nous prendre pour des zinzins. » Alors le prophète s'irrite. Il lui dit, « Mais tu te rends pas compte de ce que tu as loupé? Par ton manque de détermination, tu te rends pas compte que 3 flèches, ça signifie que tu auras 3 victoires, mais que ce problème avec les Syriens va être loin d'être terminé. Il fallait vider ton carquois. Il fallait tirer toutes tes flèches, il fallait aller jusqu'au bout. » Ça veut dire quoi pour nous? Il y a tellement de chrétiens qui sont comme Joas, qui s'arrêtent de tirer trop tôt. Ils sont trop courts dans la foi, trop courts dans la hardiesse, trop courts dans la détermination, trop courts. On n'a pas été assez loin, on s'est arrêté de tirer trop tôt. On se contente de tirer une petite flèche par-ci, par-là, contre un péché. Mais quand est-ce que tu vas aller jusqu'au bout et que tu vas l'exterminer, ce péché, dans ta vie? Parfois, on se contente de tirer une petite flèche à droite, à gauche. On va se contenter d'une réponse à un appel. On se contente d'une réunion. On se contente d'une petite lecture biblique. On va se contenter d'un petit moment de prière. On va se contenter d'un petit moment avec Dieu, une petite imposition des mains, une petite prière du pasteur, une petite prédication. Mais la vérité, c'est qu'on est toujours oppressé par les mêmes problèmes, par les mêmes peurs, par les mêmes craintes, toujours vaincu par les mêmes traits de caractère, toujours vaincu par les mêmes addictions, par les mêmes péchés, et des choses qui reviennent. Alors on tire une flèche, on répond à un appel. Ça va, sœur? Ah oui, c'est vrai, cette semaine, ça va mieux, merci. Oui, mais je voudrais pas que ça aille mieux que cette semaine. Tire toutes les flèches que tu peux jusqu'à ce que ce soit totalement, définitivement réglé, que tu sois définitivement vainqueur. Et on tire de temps en temps, on tire une petite flèche sur notre addiction. On tire une petite flèche sur notre dépression. Ah, ça m'a fait du bien ce petit culte, ah, je me sentais mieux. Ouais, mais on va voir le résultat dans 15 jours, hein. On tire une petite flèche sur nos inquiétudes, mais elles reviennent, elles reprennent le dessus. Encerclées, étriquées, oppressées par l'inquiétude. De temps en temps, on va tirer une petite flèche sur nos phobies. Ça va un peu mieux, mais ça revient. On a de nouveau une phobie, on est encerclé. Et Dieu nous appelle à vivre dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, au sens où il n'y a rien ni personne à part Jésus-Christ qui règne sur moi. Amen. Peut-être comme Joas, frères et sœurs, on ne va pas assez loin. On ne va pas jusqu'au bout. On n'a pas vidé notre carquois. On n'a pas tiré toutes les flèches qu'on aurait dû tirer. Dieu veut, mais le problème c'est que nous, on se contente de peu. On s'imagine que ça va suffire. On s'imagine que c'est pas la peine, qu'il faut pas en faire trop. On s'imagine qu'on a tellement d'autres choses plus importantes à faire. Et alors que Dieu est là et qu'il dit, je vais t'offrir, moi, mon plan, verset 17, c'était pour ce problème de ta vie, c'était jusqu'à son extermination. Je veux faire bien plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Je veux aller au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer dans cette situation problématique. Je veux cette délivrance totale, cette victoire définitive pour toi. Le mot extermination, exterminé, revient plusieurs fois dans ces quelques versets. Un autre exemple pour vous faire un parallèle. Comment il a fini Goliath ? David et Goliath. Comment il a fini Goliath ? Mort, ouais. Il est mort comment ? Oui, il est décapité. Vous savez pourquoi ? Parce que David, il voulait être sûr de ne pas remporter une bataille, il voulait remporter la guerre. Donc, il a été jusqu'au bout du processus, il était tellement déterminé, il s'est dit, mon vieux celui-là, si je le renverse, il est encore capable de se relever. Pour être sûr qu'il ne se relèverait pas, il a pris l'épée de Goliath, hein, c'est pas sa propre épée, il a pris l'épée de Goliath, il lui a tranché la tête pour être sûr que c'était terminé. Je sais pas quel est le Goliath de ta vie, mais il faudrait que tu ailles jusqu'au bout, que tu te contentes pas de le renverser de temps en temps pour qu'il se relève, parce que, je sais pas toi, mais moi j'ai pas envie de jouer à culbuto toute ma vie avec mes problèmes. Coupe-lui la tête. Va jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ce soit totalement réglé, définitivement réglé. Alors, je sais pas, moi. Si, je sais, tire les flèches que tu peux, toutes les flèches, va jusqu'au bout. Va t'enfermer. De plus en plus, je le dis avec beaucoup d'amour, je le dis à des frères et sœurs qui me parlent régulièrement, je leur dis, mais allez vous enfermer avec Dieu. Achetez-vous un pack d'eau minérale, du citron, ça va vous faire du bien. Allez vous enfermer avec Dieu. Allez jeûner, allez prier, allez jusqu'au bout. Vous contentez pas d'une réponse à un appel, vous contentez pas d'une réunion, vous contentez pas d'une petite lecture biblique, vous contentez pas de vos petits moments. Allonge, va plus loin, faut aller jusqu'au bout. Ce géant, tu vas lui trancher la tête dans le jeûne et dans la prière. Mésite et tripe, c'est ce qui manquait à Joas, c'est ce qui nous manque souvent. Mésite et tripe, va jusqu'au bout, allonge. Tire toutes les flèches que tu peux, investis-toi, donne-toi à fond, vas-y, corps et âme, ne retiens pas, ne regarde pas ce que ça va te coûter, vas-y, avec Dieu, règle ce problème. Et je veux rien citer pour mettre personne mal à l'aise, vous savez ce qui aujourd'hui est comme un Syrien pour vous et qui est toujours en train de revenir et de vous oppresser, quel est un Goliath pour vous qui joue à culbuto et puis qui se relève, vous le renversez, il se relève, vous le renversez, il se relève, oh c'est bon, oh. Dieu dit, j'ai autre chose pour toi. Ta vie chrétienne, elle doit pas se limiter à toute ta vie à combattre un péché, un vice ou une passion. Décapite-le, puis qu'on n'en parle plus. Puis passe à autre chose. Amen. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Mais toi, allonge. Va plus loin. Va jusqu'au bout. L'exaucement, la bénédiction, la réponse, la solution. La délivrance, la victoire, la visitation, la plénitude du Saint-Esprit, elle se trouve juste derrière la limite que tu n'as pas encore repoussée. Si tu repousses cette limite, tu vas trouver la bénédiction parce qu'elle est là, elle t'attend. Repousse toutes ces limites et tu verras la main de Dieu. Est-ce qu'il y a une limite que tu dois repousser dans l'amour ? Est-ce qu'il y a une limite que tu dois repousser, tu dois allonger dans ta propre repentance pour aller jusqu'au bout du processus. Est-ce qu'il y a un cordage que tu dois encore allonger dans la prière, dans la persévérance pour aller chercher la bénédiction là où elle se trouve, plus loin ? Est-ce que c'est dans ta foi, dans ta détermination, dans ton combat, dans ta niaque, dans ta hardiesse que tu dois aller jusqu'au bout ? Et peu importe le domaine, c'est le même principe. La bénédiction de Dieu se trouve derrière la limite que tu vas repousser. Parce que je crois que vous allez la repousser, cette limite. Je crois que vous allez allonger ce cordage. Amen.